Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Alexis Brulin, il est membre du secrétariat départemental du Parti communiste des Côtes d'Armor. Il est en charge de l'organisation, il est avec nous ce matin après quelques péripéties routières au micro de la matinale. Je l'en remercie, bonjour.
Je vous remercie pour votre accueil et... vous salue pareillement.
Voilà, et je vous laisse le temps de prendre votre petit café pendant l'interview. On va parler de politique ce matin. Il y a eu la fête de l'UMA. Il y a eu beaucoup de choses autour de la fête de l'UMA. On a vu beaucoup de paroles, de prises de parole. Et puis il y a eu ces propos tenus par Sandrine Rousseau, relayés un petit peu plus tard par Sophia Chikirou, à l'endroit de Fabien Roussel. C'est-à-dire que il y aurait une fracture déjà dans l'Union de la gauche ?
Non, pas nécessairement, et je pense qu'on fait d'un non-événement du buzz, et pour le coup je pense que les Français et les personnes qui vivent en France attendent autre chose de la chose politique. Enfin, à un moment donné on peut espérer avoir un peu de respect dans la situation dans laquelle nous vivons. Un appel de quelques membres de force de gauche éminents appelé à soutenir Fabien Roussel parce que, bon, le comparer à un collaborationniste...
Le nom d'Orio a été lâché, donc était un collaborationniste notoire. Hein.
Et pour le coup, quand on connaît l'histoire de d'Orio, c'est pas forcément très glorieux. Mm-hmm. Et je vous avouerai, ouais, effectivement, enfin, c'est ce que je vous disais, mais que moi, je préférerais qu'on parle des problèmes de la vraie vie et des vrais gens plutôt que de s'invectiver et de se traiter de la sorte.
Alors justement, la vraie vie, aujourd'hui, on a une inflation galopante, on a un budget qui a été voté au 49-3, enfin en tout cas un certain texte de ce budget. Est-ce que c'est reparti pour un cycle politique qui va un petit peu ignorer, là encore, les gens, ceux qui attendent des résultats sur le terrain ?
Effectivement, je le crois. Enfin, quand on voit comment le début des réformes iniques qui sont... comment avec la rentrée parlementaire sur les tablettes, on peut avoir quelques inquiétudes. J'entendais parler de la loi plein emploi et de remettre au travail des gens qui, pour certains d'entre eux, ont cotisé à l'assurance chômage. Mmh. Enfin, je trouve ça assez insupportable. Mmh. Et puis, ça voudrait dire que, quelque part, les chômeurs ne font rien, qu'on ne considère pas le fait qu'ils aient une recherche active d'emploi. Mmh. Comme un temps particulier.
Et il y a aussi ces chômeurs, ces demandeurs d'emploi qui ne peuvent pas reprendre un emploi tout de suite pour des raisons personnelles, parfois des vies un peu cabossées, il faut bien le dire. On va leur demander de faire 15 heures, de donner 15 heures de leur temps. Ça a quelque chose de choquant. On passe dans la zone d'un autre paradigme, là.
Exactement, exactement. Parce que... oui, comme je vous le dis, enfin, c'est aussi des thèses... libéral, enfin, à un moment donné, on voit bien que il faut justifier tout, tout le temps, enfin, et que à un moment donné, il y a un rapport au travail qui est à revoir vraiment en France. Et j'ai entendu Fabien Roussel, mais d'autres personnalités de gauche aussi parler du travail. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que la gauche dans son entièreté se réapproprie cette terminologie et son concept, parce que pour le coup, ça pourrait être une source d'épanouissement. Et on a vu aussi avec les problèmes d'émeutes au début de l'été, comment les choses se passaient. Quoi. Mmh. Donc faut vraiment restaurer le travail.
Alors restaurer le travail, restaurer la confiance, restaurer aussi un dialogue entre les Français. On a l'impression qu'il est cassé, ce dialogue. Est-ce que la gauche a perdu un petit peu, justement, alors on va parler un peu de politique, mais de cet électorat qu'on a qualifié de populaire. Voilà, on y met un peu tout, mais cet électorat de travailleurs.
Effectivement, la gauche a perdu un peu... prise et être enfin et le fait d'être en prise directe avec la population, on s'y attache, particulièrement au Parti communiste et avec nos alliés naturels aussi. Et effectivement, il faut aussi qu'on réoccupe le terrain parce que pour le coup, les gens souffrent de plus en plus. On voit de plus en plus de bénéficiaires venir dans les permanences d'accueil des associations de solidarité, ce genre de choses.
Et à un moment donné... Les restos du cœur ont tiré la sonnette d'alarme en disant, voilà, on n'arrive plus à faire face.
Et c'est pas les seuls. Enfin, mm-hmm. pour le coup, différentes associations qui proposent le même type d'aide mm-hmm. sont dans la même situation. On a vu se multiplier par pratiquement 0,5 le nombre de bénéficiaires d'autres associations caritatives. Mm-hmm. Je pense au Secours Populaire mm-hmm. ou à d'autres. Enfin, mais c'est ça. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il y a, comme je vous le disais, à reprendre pied par rapport au travail et à restaurer le travail, mais à réoccuper le terrain et réenchanter la gauche, parce mm-hmm. que pour le coup, on en a besoin. Parce que, bon, face aux remparts libéraux, d'où qu'ils viennent, que ce soit Macron, Philippe et Darmanin, mais aussi les courants libéraux un peu plus extrémistes, mmh. je pense à Marine Le Pen et puis à Zemmour, c'est mmh. aussi un combat qu'on va mener de front tous ensemble.
Alors on voit justement l'électorat populaire dont on parlait tout à l'heure, qui s'est déplacé en quelque sorte vers le RN. On voit beaucoup de gens qui adhèrent en tout cas aujourd'hui aux thèses du RN en disant on a eu la droite, on a eu la gauche, on n'a jamais essayé. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut être dangereux pour la démocratie? Ah,
complètement,
par exemple.
C'est très dangereux. Et on a vu les régimes populistes en place dans certains endroits. Je pense au Brésil, je pense y compris avec le régime Berlusconi en Italie il y a mmh. quelques temps. Et effectivement... on a quelques motifs d'inquiétude, parce que on sait très bien que sous des arguments, je dirais, progressistes, ou se cache plutôt du national-socialisme mm-hmm. que le reste, quoi. Enfin, mm-hmm. et c'est franchement très inquiétant, parce que on sait qu'ils sont aussi du camp des libéraux, c'est ce que je vous disais, mais on sait très bien que... comment, quand il y a des votes à l'Assemblée nationale, mm-hmm. je pense par exemple à l'augmentation du SMIC ou ce genre de choses... les députés RN dans leur entièreté ne votent pas mmh. ces mesures. Donc à un moment donné, on peut pas se tromper, quoi.
Comment parler aux gens qui souffrent aujourd'hui, ceux qui ont du mal à payer leurs factures, qui ont du mal à mettre de l'essence dans leur véhicule pour aller travailler, aux travailleurs pauvres aussi, il y en a beaucoup. Comment parler à ces gens aujourd'hui quand on est de gauche? Quel discours leur tenir?
Je pense qu'il faut partir de ce qu'ils sont. Et de ce qu'ils ressentent, enfin, au plus profond d'eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, on est vraiment tous victimes à tous les niveaux. Enfin, que ce soit les cadres moyens supérieurs jusqu'aux classes les plus pauvres. Enfin, on est tous victimes de la crise et à un moment donné, c'est insupportable. Et ça fait quelques années qu'on demande à la population de compenser des pertes énormes, mmh. sans forcément qu'à un moment donné... les politiques publiques soient au rendez-vous, que les services publics existent de bonne façon, enfin ce genre de choses. Et c'est, je trouve, assez insupportable.
Mmh. Alors on a l'hôpital qui souffre, on a les services publics, hein, vous y faisiez allusion Alexis Brulin. Là aussi, il va falloir réorienter les budgets. Alors on n'a pas l'impression que ça en prend le chemin, mais réorienter les budgets, il va falloir aussi que le gouvernement soit plus à l'écoute de ce qui se passe dans les villes, dans les campagnes, où on n'a parfois plus de médecins. Est-ce que là aussi, la gauche a, pardonnez-moi, c'est peut-être un terme un peu trivial, mais une carte à jouer?
Ah mais complètement, et on l'a fait aussi pendant les luttes et les mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Quand on voit le budget pluriannuel de l'armée de 453 milliards, alors qu'on cherchait ne serait-ce que 13 milliards pour financer la Sécu, pour pouvoir garder le régime de retraite tel qu'il est, à un moment donné, il y a un delta qui ne s'explique pas. Et donc, pour le coup, à un moment donné, je pense que de l'argent, il y en a, et on pourrait le consacrer à autre chose que ce qu'on fait actuellement. Après, c'est une question de choix politique particulier qui font qu'à un moment donné, le camp du libéralisme est plus favorisé plutôt que les plus pauvres d'entre nous et les Français en général.
Le président de la République, au début de la crise du Covid, avait parlé de ruissellement, le fameux mmh. ruissellement. Est-ce que aujourd'hui le ruissellement, bien finalement, n'a pas fait ruisseau et il faudrait mieux répartir le budget, mieux répartir l'argent aujourd'hui dans ce pays?
Ah, effectivement. Quand on voit, par exemple, les profits faits par Total, à un moment donné, c'est, comme je vous le disais précédemment, c'est insupportable. Enfin, 15 milliards de bénéfices, et pendant ce temps-là, à la pompe, nous, On est les victimes aussi de ça. Enfin,
Total a fait des efforts en disant voilà, on plafonne à 1,99 les prix du carburant. Pour vous, on pouvait mieux faire?
Ah, je pense, franchement. Parce que pour le coup, à un moment donné, on demande à tout le monde de se serrer la ceinture et de faire des efforts. Je pense que les entreprises du CAC 40 et d'autres, on peut franchement. Et il y a possibilité de défiscaliser. Je pense que vraiment, il y a à faire effort et cause commune. Enfin, au sortir de la situation sanitaire qui a été compliquée, je pense objectivement qu'il y avait tout intérêt à travailler collectivement, à ce que le pays s'en sorte, que l'Europe s'en sorte et que le monde s'en sorte aussi, quoi.
Alors, on parle aujourd'hui de beaucoup de réformes. Alors, des réformes qui sont contestées, on l'a compris, à gauche, on pense à la réforme des retraites. Et puis, il y a aussi la réforme territoriale. Hier, Emmanuel Macron était en Corse. Il a annoncé l'autonomie de la Corse. Alors, c'est un fait historique. La Bretagne revendique aussi, par la voix de son président Loïc Chesnais-Girard, cette forme d'autonomie. Est-ce que pour vous, l'autonomie des régions peut être une solution pour décentraliser, peut-être mieux gérer les budgets, mieux répartir socialement sur les territoires?
On parlait des services publics. Je pense qu'à un moment donné, le risque d'une autonomie non maîtrisée ou non contrôlée risque à un moment donné de ne pas servir la population dans son entièreté, sur tout le territoire. Enfin,
ce serait contre-productif, finalement.
Honnêtement, je le pense. Et puis, je pense qu'il y a des régions plus riches que d'autres. Enfin, certains voudraient aussi que dans leur région, on puisse avoir des latitudes pour recruter des personnels enseignants. Et l'autonomie, à un moment donné, je ne crois pas que ce soit la solution. Parce que moi, je suis pour une égalité territoriale et elle n'existe pas forcément, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une région.
Donc, on parle d'Europe fédérale aussi. Est-ce que l'Europe peut être la clé à nos problèmes ou pour vous, non, ça ne fonctionne pas non plus?
Ça pourrait être la clé, sauf que comment l'Europe telle qu'elle est construite au jour d'aujourd'hui a été construite plutôt sur des rapports à l'argent particulier. Et honnêtement, enfin, c'est à mon avis pas forcément la solution. Je pense que l'Europe des peuples, de la coopération, pour moi, serait plus intéressante que ce qui se passe maintenant. On a fait l'accord de libre-échange en 86 avant de faire la libre circulation des hommes. Enfin, à un moment donné, on marche sur la tête. Et il faudrait que l'Europe puisse permettre aux peuples un peu plus en difficulté de se sortir aussi par le haut, parce que je pense que les taquets devraient être mis au plus haut pour l'ensemble de la population européenne et pas forcément que pour certains pays en particulier.
Alors avec, là encore, des réformes qui sont imaginées pour sécuriser l'Europe, on a beaucoup parlé des migrants. À gauche, il y a une levée de bouclier hein, quand même pour dire voilà, il faut accueillir plus décemment les migrants. On a une fracturation de la société entre ceux qui veulent les accueillir, ceux qui ne veulent pas accueillir ces réfugiés qui viennent d'autres pays. Quelle est la position du Parti communiste là-dessus? Il faut les accueillir, il faut les former, il faut...
Moi, je pense qu'il faut déjà permettre aux gens de ces pays de vivre dignement dans leur pays sans forcément se prendre des prunes sur la tête. Je suis un peu vulgaire, je suis désolé, mais c'est ça. Et puis leur permettre de s'émanciper aussi et de pouvoir, pour certains pays d'entre eux, être autosuffisants. Enfin, quand on sait que des cultures sont produites dans certains de ces pays et ne permettent pas aux pays eux-mêmes de vivre par eux-mêmes... Je comprends pas et je pense qu'à un moment donné, il y a à travailler effectivement des partenariats et puis aussi permettre, pour ceux qui sont victimes de guerres ou de conflits particuliers, de pouvoir être accueillis de la meilleure des façons possibles.
Voilà, accueillir ces réfugiés, travailler avec les pays, la coopération finalement. Mais on se trouve un petit peu coincé aussi entre la Chine et la Russie qui prennent beaucoup d'ascendance, par exemple, en Afrique.
Effectivement, depuis quelques années, la Chine et la Russie se déploient sur ces territoires. Alors après, c'est aussi pour, à mon avis, avec des vues, je dirais, capitalistes, pour le coup. Et ce n'est pas forcément notre conception du développement des pays. Et à un moment donné, il faut permettre à tout le monde de s'y retrouver là où il se situe, quoi.
Mmh. En France, on parle beaucoup de réformes aussi des institutions. Alors, on entend beaucoup de voix pour appeler à une nouvelle, à un changement de la Ve République ou même à renverser cette Ve République pour passer à la VIe. Donner plus de pouvoir au peuple. On a beaucoup parlé de référendum. Alors, on dit que depuis le général de Gaulle, on a peu utilisé le référendum. Est-ce qu'il faut revenir à ce référendum? Est-ce qu'il faut consulter le peuple dans des grandes questions?
Je pense que ça peut être des outils intéressants, effectivement. Alors, je ne connais pas de modèle, hormis la Suisse, qui utilise la votation assez régulièrement, mais je pense qu'effectivement, l'exercice démocratique doit être exercé complètement différemment. Enfin, on est de plus en plus dans de la démocratie participative, et je pense qu'on a tout intérêt, parce que je pense qu'à eux-mêmes, les politiques n'ont pas les solutions à tout, surtout. Et à un moment donné, je pense que c'est collectivement aussi qu'on trouvera les solutions à des problèmes de société. Et je pense que c'est dans l'air du temps. Enfin, des changements de gouvernance, enfin, on a tout intérêt à travailler comme ça, effectivement.
Aller sur le terrain aussi, alors vous le faites, hein, le Parti communiste et d'autres partis aussi, bien sûr. Aller sur le terrain, prendre la température, faire remonter, comprendre aussi les attentes des citoyens. On a l'impression aujourd'hui que le gouvernement ou les gouvernements, hein, quels qu'ils soient, sont très éloignés finalement du peuple. On le voit, le peuple, finalement, qu'à travers les écrans ou les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut remettre un petit peu plus de terrain au centre de la réflexion politique?
Moi, j'en suis intimement persuadé, et c'est ce qui avait fait mon adhésion au Parti communiste en particulier. À l'époque, c'était une thématique de congrès, mais on défendait l'idée de partir de ce que les gens ont dans la tête. Et je pense fondamentalement que c'est ce qu'il y a à faire tout le temps. Enfin, et parce qu'à un moment donné, il n'y a pas meilleure solution que quand on est sur le terrain, parce qu'à un moment donné, on est en prise directe. Moi, je sais que je suis élu aussi à Saint-Brieuc et que régulièrement, on va à la rencontre de la population parce que certains sont victimes de la crise ou pas, enfin, mais en même temps, on est en prise directe avec la vraie vie dont je parlais tout à l'heure aussi, quoi. Donc, c'est important.
On parle souvent des problèmes de sécurité dans les villes. Alors, on dit souvent que ce n'est pas une prérogative de la gauche, qu'on a laissé un petit peu filer ses prérogatives de sécurité à la droite, voire même à l'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche doit se réapproprier ses problèmes de sécurité et aborder la situation finalement différemment sur le terrain, là encore?
Moi, je pense effectivement que ces prérogatives doivent être... Que la gauche doit s'approprier ses prérogatives. Et effectivement, je pense que c'est en occupant le terrain aussi, enfin, parce que moi, je suis de ceux qui défendent le fait qu'on n'ait pas forcément besoin de caméras de surveillance ou de vidéoprotection dans les villes. Et c'est en réhabilitant le cœur des villes, en réhabilitant les commerces de centre-ville, la vie en ville, ou même ailleurs, enfin, qu'à un moment donné, hein, on réglera pour une grande part les problèmes de sûreté et de sécurité. Et puis après, c'est aussi, je vous parlais tout à l'heure du rapport au travail, enfin, c'est aussi ça qui est à revoir, parce que bon, quand on sait qu'un guetteur gagne en trois jours ce que gagne un smicard, à un moment donné...
Un guetteur qui guette pour éviter que les policiers tombent sur les trafiquants de drogue, hein, voilà, on précise pour nos auditeurs. La drogue, c'est un problème, les stupéfiants dans les villes, même à Saint-Brieuc ou ailleurs, évidemment, on va pas stigmatiser une ville ou une autre, mais c'est un problème, et là les élus sont un peu démunis face à cette...
Démunis parce que, comme je vous dis, enfin, y a un commerce parallèle qui gangrène aussi l'économie, démunis parce que je vous avouerai que, enfin, moi, j'ai pas de solution toute faite, même si d'emblée j'aurais tendance à vous dire je suis contre la dépénalisation et contre la légalisation des drogues douces, par exemple. Démunis parce que, à un moment donné, on entend parler de fusillades dans certains endroits. Enfin,
Il y a encore eu deux morts à Marseille, par exemple.
Effectivement, hein. Effectivement. Et puis, démunis parce que, en même temps, c'est nos mômes. Et puis, c'est un rapport à la société qui est complètement différent que ce qu'on a pu connaître par le passé.
C'est aussi le problème de l'éducation face à la précarité, parce que souvent, ces jeunes qui tombent dans la drogue, eh bien, c'est pour avoir de l'argent, évidemment, vous le soulignez, mais. C'est pour éviter de rester dans la précarité. Mais il y a aussi l'éducation. On sait que le Parti communiste, en son temps, était très proche de l'éducation populaire, d'aller sur le terrain, d'essayer de faire société. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'éducation est un des piliers ?
effectivement, je pense que c'est un des piliers, et on voit bien que... Comment, avec les émeutes, on voit bien que tout un tas de pans de la société comme ça aussi ont disparu, et qu'on parlait aussi des services publics, et je pense que la disparition des services publics a contribué aussi au fait que l'éducation soit plus de la même qualité, et qu'on voit bien que avec la rentrée qu'on vient de vivre, avec le manque d'enseignants, ce genre de choses, enfin, les priorités sont pas les mêmes pour tous. Enfin, et...
Le gouvernement a annoncé une augmentation hein, du traitement des enseignants et des personnels de l'éducation nationale. C'est assez pour vous ? Faut revoir le système ?
Moi, je pense qu'il faut revoir de fond en comble la revalorisation. On parlait du travail, mais... À un moment donné, on vit pas de prime. Enfin, une prime, par définition, ça peut disparaître. On cotise pas à la sécurité sociale ou... Et à un moment donné, on ne vit pas de prime. Enfin, à un moment donné, pour peu qu'on change de gouvernement, de politique générale, bah, à un moment donné, toutes ces primes pourraient disparaître. Donc, à un moment...
Voilà, améliorer le traitement, le véritable traitement
des fonctionnaires. Complètement, et puis avoir une politique de recrutement aussi digne de ce nom, avec une politique digne de ce nom pour former les enseignants, pour former les AESH, parce que c'est aussi ça qu'on attend, quoi. Enfin,
On a beaucoup de difficultés aussi sur le handicap psychiatrique. On le voit aujourd'hui, la psychiatrie est à la dérive, si vous me permettez le terme. Là aussi, il va falloir un petit peu, comme Gabriel Attal l'a fait pour le harcèlement à l'école, prendre le taureau par les cornes.
Ah, je pense fondamentalement, et c'est aussi mon secteur d'activité professionnelle, mais pour le coup, je pense effectivement qu'il faut qu'on rattrape un retard considérable. Enfin, on parlait des AESH, c'est le deuxième métier dans le secteur de l'éducation nationale après les enseignants. Il y a à travailler les institutions et la scolarisation, l'inclusion, mais à tous les niveaux, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les locaux, qu'on soit aussi dans une société un peu moins validiste, qui utilise des critères sélectifs et capitalistes, pour le coup, pour recruter des personnels, y compris en situation de handicap. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça, quoi.
Voilà, donc une remise à plat, en quelque sorte. Un dernier mot, on parlait des services publics, on parlait de la sécurité. Je voulais vous entendre sur les commissariats dans les quartiers, comme l'on dit, on les nomme comme ça, les quartiers difficiles. Est-ce que, pour vous, ça a été une erreur d'enlever cette police de proximité qui pouvait dialoguer, finalement, avec les uns et les autres ?
Complètement. Et on l'a vu aussi, enfin, on parlait des émeutes tout à l'heure, mais on l'a vu aussi, et je pense qu'ils avaient vraiment un rôle de sentinelle et un rapport à la population qui était complètement différent. Et je pense que... Alors, je ne suis pas forcément pour un état policier non plus, mais pour le coup, je pense que la présence de la police dans les quartiers, effectivement, est fondamentale, parce que ça permet de pondérer aussi les choses, de rassurer aussi le cas échéant, et puis... d'entretenir des rapports à la population complètement différents. Et c'est pas que ce service-là qui a quitté les quartiers populaires. Enfin, à un moment donné, quand on ferme un bureau de poste, quand on ferme une école, à un moment donné, sur le territoire, il y a une égalité territoriale et une égalité de traitement des Français et des citoyens qui est complètement différente.
Un dernier mot sur le logement. On entend beaucoup parler de précarité. Là aussi, il y a une précarité. On ne trouve plus de logement à la location. Il y a ces fameuses passoires énergétiques dont les propriétaires ne peuvent pas, pour des raisons souvent pécuniaires, financières, mettre aux normes et donc ne peuvent pas louer. On a le problème du logement aussi d'été ou de vacances ici en Bretagne et ces résidences secondaires qui font couler tant d'encre. Est-ce que là aussi, il faut un grand plan logement pour la France et pour la Bretagne en particulier ?
Ah, je le pense fondamentalement, parce que on s'aperçoit que et c'est encore les mêmes victimes vivent dans des passoires énergétiques, comme vous le disiez, et c'est insupportable. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il y a à travailler aussi le fait que toute la population puisse être logée dignement et qu'on ne voit pas des gens dormir dehors l'été comme l'hiver et mourir dehors aussi l'hiver et l'été. Donc je pense qu'il y a vraiment une politique du logement à revoir.
Il faut aussi faire un peu pression sur les banques qui veulent plus donner de crédit pour les jeunes ménages, par exemple, qui veulent s'installer.
Exactement, exactement. Et puis trouver des moyens qui permettent aux jeunes ménages justement de s'installer et de pouvoir commencer dans la vie sans forcément non plus être pressurés par des prêts. Enfin, après, j'ai pas de solution miracle en particulier, mais pour le coup, je pense qu'il y a effectivement à revoir les choses dans beaucoup de chantiers sont à venir et à entreprendre pour pouvoir permettre aux gens de vivre mieux dans cette société, quoi.
Un tout dernier mot, il nous reste une poignée de secondes. Le grand chantier du Parti communiste aujourd'hui, c'est lequel? Il y en a plusieurs ou il y en a un en particulier?
Non, enfin, après, certains diront peut-être le contraire, mais pour le coup, c'est de reprendre pied avec la population et puis d'aller en direction des plus vulnérables. Et bon, c'est un cheminement qu'on essaye de faire. Et puis aussi, de faire grandir la gauche et de faire gagner la gauche, pour le coup, parce qu'à un moment donné, les alternatives ou libérales ou d'extrême droite ne peuvent pas convenir à l'ensemble de la population. Donc à un moment donné, c'est ça aussi ce à quoi on aspire.
Alexis Brulin, membre du secrétariat départemental du PC des Côtes-d'Armor en charge de l'organisation, était avec nous ce matin pour cette première radio, je crois.
Effectivement.
Voilà, ça s'est très bien passé, un peu de stress pour la route, mais voyez, ça s'est très bien passé. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Pareillement, je vous remercie beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.